Notre habitude, c'est de parcourir la Bible, verset par verset, ou au moins chapitre par chapitre, et de façon à ce que nous ne campions pas sur nos sujets favoris, mais que nous examinions tout le conseil de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons à un sujet dans 1 Corinthiens 11, qui n'est pas spécialement un de mes sujets favoris. Pourquoi ? Parce que ce sont des versets difficiles. Et surtout, ce sont des versets qui ont eu tendance au cours des siècles à diviser les églises. Et donc, c'est avec beaucoup d'humilité, en demandant que la grâce de Dieu soit sur nous tous, pour qu'ensemble nous voyons ce que la Bible a à nous dire sur ce sujet de la tenue dans l'église. Voilà. Nous allons lire ensemble les versets 2 à 16 du chapitre 11 de la première épître de Paul aux Corinthiens. Au vers 16, oui, pardon. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se voiler la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur elle, sur la tête, une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est pas sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme naît par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée ? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter ? En effet, la chevelure lui a été donnée en guise de voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Amen. Alors bien sûr, ce ne sont pas les versets vers lesquels nous nous tournons lorsque nous sommes dans la peine, dans le chagrin. Ce ne sont pas les psaumes. Mais ce qu'il est bon, c'est de les replacer dans le contexte de ce que nous venons d'étudier depuis plusieurs semaines. Et on a dit qu'un texte sans contexte, c'était souvent qu'un prétexte. Et souvent, c'est le cas des sectes qui vont prendre un verset obscur. Pour en faire la base d'une nouvelle doctrine, d'un nouveau mouvement. Si vous avez été avec nous depuis quelques semaines, vous savez que le sujet d'actualité, ça a été la viande sacrifiée aux idoles. Nous avons vu qu'à l'époque, un moyen d'avoir de la viande bon marché, c'était de l'acheter auprès de ceux qui l'avaient déjà sacrifié en partie dans les temples païens.
Cheap meat was to buy it from,
Mais parmi les chrétiens, certains se disaient qu'étant libres en Christ, ce n'était pas un problème. D'autres, par contre, disaient que non, puisque ça avait touché les idoles, c'était mauvais et il fallait surtout pas y toucher. Et Paul a longuement répondu à cette question. Et le principe, c'est que oui, nous avons la liberté de faire n'importe quoi. On a dit, aime Dieu et fais ce que veut. Je crois que c'est Saint François d'Assise qui disait ça. Si nous sommes chrétiens, nous n'allons pas avoir envie de faire du mal à notre prochain, donc nous pouvons donner libre cours à notre amour. Et donc l'idée, c'est que oui, nous avons la liberté, mais il y a l'amour qui doit prévaloir. Et l'amour ne doit pas être une... On ne doit pas, en raison de nos libertés, causer la chute d'un frère ou d'une sœur. Donc si quelqu'un a des problèmes avec la viande qui a été sacrifiée aux idoles, Paul dit, je préfère être végétarien. Il ne le dit pas de telle façon, mais il dit, je préfère ne pas manger de viande. Et donc, nous avons vu qu'à partir d'une situation bien locale, bien historique, il développe un principe éternel. Et je crois que là aussi, dans l'histoire de la tenue des femmes, avec un voile ou pas de voile, nous devons voir la situation locale. Pour en tirer un principe éternel, et quelle que soit la conclusion à laquelle nous arrivons, l'amour doit prévaloir. Et on doit respecter les personnes qui pensent qu'à l'église la femme doit avoir un voile, ou les personnes qui disent non, on n'a pas apporté un voile. Ce qui compte dans ces domaines où peut-être c'est pas noir et blanc, c'est que chacun se fasse une conviction personnelle et la respecte selon sa conscience. Beaucoup de précautions, vous allez dire. C'est vrai que ce problème de porter un voile ou non fait encore que certaines personnes n'entreraient jamais dans telle église, d'autres n'iraient pas dans une église où toutes les femmes portent des voiles. Paul commence toujours avec beaucoup de diplomatie. On vient de voir qu'il a critiqué beaucoup des problèmes qui se passaient chez eux. Mais là, il leur fait un compliment au verset 2. Paul avait passé 2 ans à Corinthe à instruire les Corinthiens. Et il les félicite de ce qu'ils ont quelques souvenirs de ses instructions. Et puis il ajoute un principe fondateur qui, encore une fois, il faut le voir, le contexte de l'Église, de la famille. Mais le principe, c'est que Dieu a établi un ordre divin. Une hiérarchie que l'on ne peut transgresser sans risquer de graves problèmes. Et il faut se replacer aussi dans le contexte. À l'époque, la femme était considérée souvent comme pas mieux qu'un du bétail, des animaux qui appartenaient à l'homme. ce soit dans la culture grecque, la culture romaine ou même la culture hébraïque. C'était des citoyens de deuxième classe. Et lorsque les féministes critiquent Paul ou la Bible, c'est faire injure à la vérité historique qui fait que partout où le christianisme est passé, le statut de la femme a été élevé. Que l'enseignement de la Bible, c'est qu'en Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni maître, ni esclave, ni juif, ni grec. Et donc cet ordre, cette hiérarchie, ce n'est pas une question de valeur intrinsèque des individus. Dans l'armée, il y a une hiérarchie. Le général a un rang plus élevé que le simple soldat. Ça ne veut pas dire qu'intrinsèquement le soldat soit inférieur au général. Le soldat finira peut-être maréchal. Ou il peut avoir des qualités humaines bien supérieures à celles du général. Mais si la hiérarchie n'est pas respectée, c'est la pagaille. Et dans le cas d'une armée en guerre, c'est la défaite assurée. Imaginez une armée où le colonel n'obéit plus au général, mais au soldat de deuxième classe. Ce serait folklore, on a même du mal à l'imaginer. Le soldat qui dit non, je ne pense pas qu'on devrait attaquer par là, on devrait passer par là. Et, bon, d'accord. Et donc, il parle de du chef. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Le mot grec utilisé pour le mot chef, il se traduit par chef, c'est aussi le mot qu'on traduit par tête. Qu'est-ce que c'est que la tête? La tête, c'est ce qui donne la direction au corps. D'accord? Et donc, la tête, c'est un symbole d'autorité. Et là, Paul dit que Christ est le chef de tout homme. Et là, il ne se cantonne pas simplement à l'Église ou à la famille chrétienne. Il dit le chef de tout homme. Et donc, ça veut dire qu'en fait, un homme qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Christ, n'est pas un homme complet. Tant qu'un homme n'a pas connu son Créateur, ne le connaît pas intimement, il ne fonctionne pas normalement. J'ai essayé de trouver une comparaison, vous me pardonnerez, c'est encore de l'informatique. Mais imaginez un bel ordinateur très puissant, sans logiciel d'exploitation. Toute proportion gardée, c'est aussi ridicule pour un homme de ne pas connaître Dieu. Dieu qui va donner un sens à sa vie, qui va faire qu'il va avoir du discernement, qui va comprendre les choses, qui va comprendre la vie, qu'il va connaître la vérité. Cette vérité va le rendre libre. En fait, même vos amis incroyants, vos parents incroyants, le réel chef, c'est Christ. Et cela doit vous donner un désir de partager avec eux la bonne nouvelle. Que Dieu vous aime, que Dieu les aime, et qu'il est venu en la personne de son Fils mourir pour leurs péchés, pour qu'ils aient la vie éternelle abondante avec lui. Christ est le chef de tout homme. En tant que chrétien, c'est facile à admettre. La seconde partie, l'homme est le chef de la femme, ça peut être déjà plus difficile pour certains et pour certaines. Alors là, je crois qu'il faut faire attention, ça ne veut pas dire que tout homme a autorité sur toute femme. Et que n'importe qui peut venir voir une des jeunes femmes de l'Assemblée et lui dit « il faut faire cela » et la personne doit lui obéir. Non. Le mot « femme », c'est aussi le mot que l'on traduit par « épouse ». Et donc, dans le cadre du mariage, Paul va le développer dans Éphésiens 5. La femme doit être soumise à son mari. Encore une fois, ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de fonctionnement de la cellule, de l'ensemble. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas à vous soumettre à un homme qui vous le demanderait. Dans la famille, bien sûr, le père a une autorité sur les enfants. Et peut-être si vous n'êtes pas marié, mais si vous pensez le devenir, il faut que vous soyez convaincu que vous respectez la primauté de votre spirituelle de votre fiancé. Leadership or headship. Ne faites pas de plan avec quelqu'un qui ne suivrait pas Jésus comme son maître. Et nous voyons que après avoir établi cette vérité fondamentale, on peut faire une remarque bien sûr sur la dernière partie pardon, qui disait que Dieu est le chef de Christ. Et ça, c'est souvent un verset que les témoins de Jéhovah, notamment les sectes, utilisent pour dire que Jésus n'est Christ, n'est pas Dieu. Et nous avons déjà répondu à cette fausse accusation, notamment par le passage de Paul dans Philippiens 2, où nous voyons que cette submission à la volonté du Père. Souvenez-vous, dans le jardin de Gethsémané, Jésus disant, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et le passage dans Philippiens 2, vous pouvez vous y tourner, c'est page 224 dans la Bible à la colombe. Il est dit que, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Donc il n'y a pas de question depuis l'éternité passée, il a la même condition que Dieu, il est Dieu, le Fils comme Dieu le Père est Dieu. Et il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et ensuite le reste des versets décrit sa descente volontaire vers le plus bas pour prendre la place de criminel qui nous appartient. Et donc, Dieu est le chef de Christ. Il y a cette hiérarchie entre eux. Mais il y a une égalité dans la divinité. De même que le Saint-Esprit est Dieu aussi. Donc je disais, après avoir établi ces vérités fondamentales, Paul se lance dans une discussion sur le fait de porter un couvre-chef. Couvre-chef, c'est-à-dire couvre-tête. Que ce soit un chapeau, un voile, un foulard. Et c'est vrai, je disais au début que souvent cette discussion a été l'occasion d'interprétations très, très fortes. Et je crois que le problème, c'est qu'on n'a pas remarqué le caractère local de la situation. Nous avons expliqué qu'à Corinthe, Corinthe, c'était une ville connue dans le monde entier pour sa débauche. Il y a la série de télé qui a parlé du vice à Miami. À l'époque, on aurait fait un film sur Corinthe. C'était une ville cosmopolite. Il y avait beaucoup de marins, de soldats, de gens de tous les coins du monde. Et la ville était connue par sa tour Eiffel, c'était le temple d'Aphrodite. La déesse de l'amour, dont le nom latin est Vénus. Et on a expliqué que ce temple comptait près de 1000 prêtres et prêtresses. Et ces prêtres et prêtresses n'étaient en fait que des prostituées, mâles ou hommes ou femmes, qui venaient en ville chercher des clients pour en faire des fidèles, entre guillemets, en se livrant à des orgies sacrées avec eux. Et ces prostituées, on les reconnaissait notamment parce qu'elles étaient les seules dans la ville à ne pas porter de voile. Non seulement ça, mais elles avaient souvent les cheveux courts ou même rasés. Et c'était pour elles une façon de s'afficher avec un air effronté et de se faire connaître. Paul, venant de parler des libertés en Christ, nous avons vu qu'il avait dit qu'il ne fallait pas utiliser des libertés sans amour. Et ce qui comptait avant tout, c'était la gloire de Dieu. Et donc on pense qu'il y avait à Corinthe des Corinthiennes libérées. Et certaines d'entre elles commençaient à dire, mais après tout, je suis libre en Christ, pourquoi j'ai besoin de ce voile ? Le problème, leur dit Paul, c'est que vous donnez un air de prostituée. Et leur dit, ne ressemblez pas à des prostituées. Et donc, transposons aujourd'hui. Nous vivons dans une société où la taille des cheveux est très variée. Mais le principe, l'ordre reste toujours valable. Paul dirait aujourd'hui aux femmes, aux niçoises, aux parisiennes, aux femmes des églises, ayez une tenue décente. N'attirez pas l'attention sur vous d'une façon séductrice, d'une façon sensuelle. Parce que rappelons-nous, soit donc que nous mangions, soit donc que nous buvions, nous devons faire tout pour la gloire de Dieu. Or we do, to the glory of God. Et il leur dit, en fait, si vous adoptez une attitude sensuelle en public, cela déshonore votre mari, si vous êtes marié. Donc, si vous avez l'air d'une prostituée, ça déshonore votre mari. C'est toujours vrai aujourd'hui. Les principes éternels. Et peut-être c'est la fin de l'été. Mais peut-être honnêtement, il est bon de rappeler aux dames que bien souvent, il ne faut pas grand-chose pour éveiller l'intérêt sexuel des hommes. C'est pas votre faute. C'est notre vieille nature de pécheur en nous. Mais vous pouvez aider vos frères et vos sœurs, vos frères dans l'église, peut-être les sœurs, en adoptant de la retenue dans votre façon de vous vêtir, en la façon dont vous maquillez. Ça peut être des fois une situation délicate d'aller dire à quelqu'un, à une personne du sexe féminin, rhabillez-vous. Et là, surtout, il n'est pas question de tomber dans le légalisme et de dire, oula, tu as mis du rouge à lèvres aujourd'hui. C'est aussi plus facile pour une sœur d'aller parler à une autre sœur. Et donc, s'il y a besoin de faire ces choses-là, que ce soit fait dans l'amour et le respect de l'autre, en comptant sur le Saint-Esprit, d'abord, pour convaincre la personne de péché, de justice, de jugement. Mais nous voyons que le principe reste le même aujourd'hui. Ayons tous, que ça, c'est valable aussi pour les hommes, de ne pas venir torse nu à l'église. Sans avoir à adhérer à un style de vêtements strict. Nous allons voir plus loin que ce qui compte, c'est l'attitude du cœur. Les Juifs avaient l'habitude de se couvrir la tête avec un châle pour prier. Et vous souvenez, ils le faisaient parce que lorsque Dieu s'était révélé à Moïse, il lui avait passé les 10 commandements, il lui avait donné, pardon. Il est dit que son visage rayonnait de gloire et que pour ne pas éblouir les Juifs qui étaient restés en bas, il avait mis un voile sur sa tête, sur son visage. Et il disait que c'était vraiment un grand signe d'humilité de la part de Moïse. Mais en fait, Moïse ne le portait pas par humilité, il le portait par orgueil. C'est Paul qui nous le dit, 2 Corinthiens 3, 13, si vous voulez le noter, si vous prenez des notes. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. 13. Et donc lui, il mettait un voile pour pas qu'on voit que la gloire qu'il avait reçu par contact proche avec Dieu s'en allait progressivement. Et Paul dit que tout homme qui prie avec quelque chose la tête couverte déshonore son chef, c'est-à-dire Christ. Nous savons que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et que porter une coiffe, c'est un symbole de soumission. A coif is a head cover. Alors que l'homme créé, non seulement créé, mais racheté par Dieu, peut porter la tête droite dans un sans coiffe comme symbole de dignité et de liberté retrouvée. Verset 5, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Et verset 6, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Et là, il veut dire qu'en fait, tant qu'à avoir l'air d'une prostituée, autant avoir l'air jusqu'au bout. Et là, on peut remarquer que verset 6, il dit « Or, si il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés », je crois que c'est encore un rappel que ceci disait qu'il était honteux dans cette culture et peut-être pas dans d'autres cultures. Comme... C'est l'homme qui est venu en premier. La femme est venue en second. Vous vous souvenez, l'Éternel Dieu avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Et puis nous savons qu'il a endormi l'homme et que de sa côte il a tiré la femme. Et l'homme a dit, cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme. Et en le lisant comme ça, sur un ton un peu monocorde, on ne fait pas justice à la joie que devait être celle d'Adam. C'était plutôt un grand cri de joie. Mais la femme avait été tirée de son côté, de sa côte. Et il est dit, l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Ou une autre traduction, c'est l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme pour l'homme. C'est la vérité historique et biblique. Et ça veut dire que lorsque la femme veut son indépendance, elle ne fonctionne pas dans le principe de Dieu si elle est mariée. Nous avons vu en étudiant les situations de divorce, de mariage, que certaines femmes peuvent être appelées à être, ou certains hommes peuvent être appelés à rester célibataires. Et Paul dit que c'est tout à fait légitime et tout à fait honorable. Il dit même que c'est plus pratique pour servir Dieu. Mais le principe biblique, c'est qu'il n'est pas bon pour un homme d'être seul. Et après avoir fait ces références à la Genèse, nous arrivons à un verset 10. Qui est un des versets très difficiles de la Bible. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Vous savez que les anges sont des êtres réels. La Bible en parle de façon tout à fait évidente. Il faut prendre garde de ne pas les mettre au même niveau que le Père Noël. Il y a une réalité spirituelle. Les anges sont des êtres vivants. Le livre de la lettre aux Hébreux nous apprend que les anges qui nous entourent sont des esprits au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
For the people that are ready to be saved.
Et je crois que là aussi, il y a toute une réalité spirituelle qui échappe notre vue humaine. Je crois qu'il y a des fois, les anges doivent travailler des heures supplémentaires pour nous protéger, pour nous servir. Nous savons que le plus célèbre d'entre eux s'appelait Lucifer. Il était le plus beau. Il est appelé un ange de lumière. Mais il s'est rebellé contre l'ordre établi. Il est dit dans Ézéchiel qu'il a voulu se faire aussi grand que Dieu. Et Dieu a dû le damner, le rejeter. L'enfer a été créé non pas pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Parce qu'un tiers des anges dans tout l'univers des cieux, un tiers des anges est tombé à la suite de Satan. Et une des premières interprétations de ce passage, c'est que les anges, les bons anges qui nous voient, Pierre parle même dans 1 Pierre 3 du fait que les anges se penchent avec émerveillement sur nous pour voir la merveille qui représente le salut. Ils aiment y plonger leur regard. Et ces anges, une des possibilités, c'est qu'ils sont devenus super sensible à toute rébellion. Parce qu'ils ont un mauvais goût dans la bouche de la grande rébellion qu'ils ont vue, des anges. Et dès qu'ils voient l'ombre d'une insubordination, d'une rébellion, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, que ce soit dans son monde, ils deviennent très nerveux. Ça, c'est une première possibilité. La Genèse aussi a un passage un peu obscur qui parle des fils de Dieu qui sont venus prendre des filles des hommes pour avoir avec eux les géants. Pour certains, les fils de Dieu, c'est simplement les hommes qui suivaient la volonté de Dieu, ceux qui avaient égard pour Dieu. Pour d'autres, ce sont des anges qui ont été attirés par la beauté des femmes humaines. Ça pose un problème parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a dit que les anges n'ont pas de sexe. Mais en suivant cette pensée, on pense que peut-être en mettant un châle, un voile, les femmes se protègent de l'intérêt des anges mauvais. La dernière possibilité que j'ai rencontré qui me paraît être plus profonde, c'est qu'en fait, lorsque la femme porte ce voile sur la tête, elle démontre une attitude du cœur, une attitude de soumission, et que dans cette attitude d'honorant, elle honore Dieu par cette attitude. Et en conséquence, elle est spirituellement protégée des mauvais anges qui peuvent lancer des attaques spirituelles. Encore une fois, le combat spirituel est une des réalités de la vie chrétienne. Et donc, si la femme a cette attitude du cœur, elle est plus à même de résister aux dépressions, aux oppressions qui auraient une origine démoniaque. Je vous laisserai vous faire vous-même votre avis. Mais Paul ramène les choses à leur juste milieu en disant qu'il y a équilibre. La preuve, c'est la naissance. On a dit que la première Ève, ça avait été l'homme, que la femme était venue de l'homme. Mais maintenant, sans les femmes, on serait bien embêtés. Amen. La femme était tirée de l'homme, mais maintenant, l'homme naît par la femme. Sans nos mamans, nous ne serions pas là. Amen. Et j'ai entendu Mathieu dans le ventre de Ronnie qui disait Amen. Je ne connais pas le nom du bébé de Becky encore. Et donc, quelque part, la bataille entre les sexes est ridicule. C'est souvent la faute des hommes qui, au cours des âges, ne se sont pas soumis au Christ. Et souvent, parmi les milieux chrétiens, on entend des hommes qui essayent d'imposer leur loi à leur épouse en disant « Tu dois te soumettre à moi ». En oubliant que c'est plus facile que la femme se soumette à lui si lui-même se soumet à Christ. Il y a donc plus juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme, nous dit Paul dans Galates 3, 28, car nous sommes tous un en Christ Jésus. Et il reste, malgré ça, il reste un ordre établi. Et lorsque Paul dit que la femme est la gloire de l'homme, ça veut dire que c'est la brillance de l'homme, the outshining. Et quelque part, ma femme est une réflexion de moi-même. C'est elle qui va briller à partir de moi. Si elle est impatiente, c'est peut-être parce que moi je suis impatient. Si elle n'est pas aimable, c'est peut-être parce que moi non plus je ne suis pas aimable. Et souvent les problèmes que je critique le plus en elle, c'est les problèmes les plus critiques en moi. Paul nous dit aussi plus loin que personne n'a haï sa propre chair. Notre femme est notre chair en tant que mari. Il est intéressant que dans le passage, le verset 4 que nous avons lu, 5, il est question de la femme qui prie ou prophétise. Et donc ça, lorsqu'il dit quand la femme prie ou prophétise, ça veut dire que ses activités sont légitimes pour la femme, même dans l'église, même en public. Et prier en public à voix haute, c'est quelque chose qui est tout à fait légitime pour la femme dans l'assemblée. prophétiser, c'est aussi donner une parole qui va rappeler une vérité biblique avec force. Dans le Nouveau Testament, la prophétie, c'est pas tellement prédire le futur, que de faire briller la lumière de la parole. Nous verrons cela plus en détail à partir du chapitre 12, 13 et 14. Mais c'est vrai que les femmes sont souvent même plus spirituelles que les hommes. Souvent, ce sont les femmes qui amènent leur mari à l'église. Souvent, elles sont sensibles aux choses de l'esprit. Le mouvement des missions dans l'histoire leur doit beaucoup. Et aujourd'hui encore, les femmes jouent un rôle inégalable dans le corps de Christ. C'était une petite parenthèse. Nous verrons que Paul n'autorise pas les femmes à enseigner des hommes de façon régulière. Dans 2 Timothée, 1 Timothée. Mais elles peuvent enseigner les enfants, elles peuvent enseigner d'autres femmes. Donc une petite parenthèse pour dire qu'en fait, tout vient de Dieu. Verset 12. Verset 13, il dit « Jugez-en vous-même » et Alfred Quinn, qui est un auteur chrétien actuel, dit « Qu'en faisant appel au jugement personnel de ses lecteurs et aux convenances, l'apôtre limite la portée historique de ses directives. » Et puis il fait appel à la nature. Est-ce que la nature vous enseigne pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter? Le mouvement Calvary Chapel est issu d'un mouvement qu'on a appelé le mouvement Jésus dans les années 60. Qui se passait donc auprès des hippies, de ces jeunes en rébellion contre la société, et qui portaient les cheveux longs, même très longs. Et le pasteur qui était à l'origine de ce mouvement, qui est presque chauve, son nom c'est Chuck Smith, disait qu'en fait, on l'appelait souvent à l'époque pour lui dire « Mais regardez, ces jeunes qui portent des cheveux longs, c'est horrible. La Bible dit bien, c'est un péché. » Et il disait « C'est drôle que le Seigneur appelle un chauve à défendre les chevelus. » Mais il disait « Non, il n'est pas dit que c'est un péché, il dit que c'est une honte. » Il dit c'est peut-être une honte d'avoir des cheveux très longs. Mais il disait, et je pourrais le dire avec lui, le matin quand j'essaye de peigner les quelques cheveux que j'ai sur le côté, c'est une honte. Donc, encore une fois, la Bible ne prescrit pas de taille de cheveux. Elle ne parle pas de la taille de vos ourlets de jupe, mais verset 14, en fait, il fait appel à une chose très importante qui est bafouée de nos jours, c'est le respect de la différence des sexes.
Totally today,
Dieu a créé les hommes et les femmes.
God creates man and
woman. Il les a créés différents.
And we were created differently.
Nous sommes dans une société où la pensée, c'est de dire que n'importe quoi est valable.
Now, society today says everything goes.
C'est la mode unisexe. En Hollande, on vient de permettre aux homosexuels d'adopter des enfants.
In the Netherlands, homosexual couples can actually adopt children.
On ne peut pas jouer ainsi avec l'ordre divin sans s'exposer à de graves problèmes.
But we know that if we play around with the divine order, we're going to have very serious problems.
Et puis finalement, Paul, qui sait que c'est un sujet qui va faire grincer les dents.
Paul, as he knows that this is a subject which is going to cause some problems.
Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette coutume, ni les églises de Dieu. Donc il ne s'agit pas de se disputer sur ces choses-là. Encore une fois, pas de légalisme en ce qui concerne les apparences extérieures. Dans un sens comme dans l'autre. Respectons nos sœurs qui veulent porter une coiffe et respectons aussi nos sœurs qui pensent que ce n'est pas nécessaire. En nous rappelant que dans le message de la Bible, c'est que Dieu ne s'intéresse pas aux apparences, il s'intéresse à la réalité. Il regarde au cœur. L'Éternel avait dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille en considérant un des frères de David, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Un pasteur dit que pour être un bon théologien, il faut savoir compter. Et il explique en disant qu'en fait, oui, il faut savoir compter le nombre de passages qui traitent d'un problème particulier. Combien de fois la Bible aborde-t-elle le sujet de la longueur des cheveux, de la porte d'un chapeau, du port d'un chapeau, pardon? Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est le seul passage. Et encore une fois, je prêcherai sur ce sujet quand nous aurons fait tout le tour de la Bible et que nous reviendrons à ce sujet. Ça risque de prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'on garde les cassettes des messages. Conseil pratique. Les questions de mode, de style, c'est une chose personnelle. Amen.
Practical tip, fashion is personal.
C'est votre cœur qui compte.
It's important is how our hearts feel about it.
Encore une fois, il ne s'agit pas d'amener la honte sur l'Église de Christ en portant des tenues sensuelles.
Once again, one should not shame the Church of Christ by wearing all sorts of indecent clothes.
Ou en portant des vêtements complètement sales. Le style que vous adoptez doit être en accord avec votre identité sexuelle.
Your style should be in accordance to your sexual identity.
Sauf si vous êtes écossais, je me permets le droit de vous reprendre si vous arrivez si les hommes arrivent ici en jupe. Sauf si c'est encore une fois, si je regarde Mathias qui est arrivé ce matin, mais c'est pas une jupe, il a des pantalons, mais il pourrait avoir une robe encore une fois, mais c'est culturel et c'est pas quelque chose qui agresse et qui est un signe de rébellion, n'est-ce pas? Pardon Mathias. Et nous devons être prêts à accepter de modifier notre liberté, notre style. Pour glorifier Dieu. Amen. Amen. Prions. Levons-nous, s'il vous plaît. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, un jour nous comprendrons exactement tout ce que tu as voulu dire par ce passage inspiré à Paul. Seigneur, merci de nous guider ensemble et personnellement par ton Esprit Saint pour nous convaincre de ces sujets. Mais Seigneur, nous te demandons de nous aider à te rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Que ce soit en mangeant, en buvant, en faisant n'importe quoi, Seigneur, et notamment par nos vêtements, notre maquillage pour les femmes ou les hommes, que ce soit quelque chose qui te glorifie, Seigneur. Garde-nous des influences du monde. Donne-nous ta grâce pour ne pas être rempli de légalisme. Mais Seigneur, que nous soyons des vrais témoins de ta joie, de ta grâce, de ton amour, Seigneur, pour ceux qui nous entourent. Remplis-nous, Seigneur, de ta sagesse et de ton amour. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.